Hello, c'est Valentin. Deux petites choses rapides avant de commencer cet épisode. La première, pour t'informer que nous organisons désormais des lives tous les dimanches soirs avec des petits jeux, des quiz et des cadeaux à faire gagner. Le tout dans une ambiance détente. Alors si t'as le temps, n'hésite pas à passer une petite tête sur notre chaîne Twitch ou YouTube. Deuxième chose, l'Euro 2024 arrive et dans l'objectif de se développer financièrement, 11e Art est à la recherche d'un partenaire qui pourrait nous accompagner tout au long de la compétition. Si tu connais quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui bosse dans une boîte qui serait intéressée, n'hésite surtout pas à nous envoyer son contact ou à transmettre nos coordonnées ou nos réseaux sociaux sur lesquels nous répondons très rapidement. Et enfin, pense à t'abonner, à liker et à activer les petites cloches pour être informé des nouveaux épisodes. Très bon épisode à toi!
Elles sont longues. Quelles sont longues ces journées de chômage? Je me sens comme un gardien numéro 2, mais blessé. Je m'entraîne même pas. Tous les matins, je me lève, je prends ma douche histoire de rester du bon côté de l'humanité, je m'habille. On actualise les mails pour voir si quelqu'un fait signe, même pas. On regarde un peu les offres, pas grand-chose. On envoie des messages aux copains qui ne répondent pas très vite, trop occupés à vivre leur vie de salarié, ces salauds. Puis après, pour souffler un coup, on se met au balcon. On s'est fait couler un petit café, pas perdre le réflexe de la pause. On s'allume une clope et on regarde. On regarde ces gens dont la vie est bien chargée. Ça court, ça klaxonne, ça s'engueule, ça crie. On est comme ça, là, hélas, sur le côté, au bord de l'humanité. On nous a tellement répété que c'était pas normal qu'on n'arrive même pas à en profiter. Les grasses mats, elles ont du goût que quand elles sont rares, finalement. On traîne un peu, on se nourrit, on bouquine, on fait du sport, histoire de pas trop se laisser aller non plus. Chômeur, oui, mais pas gros chômeur, hors de question. En milieu d'après-midi, on se remet au balcon, voir un peu si quelque chose a bougé. Évidemment que non. Le train de la routine humaine continue à filer à vive allure, vous laissant sur le quai. Heureusement, en ligne de mire, ces soirées de foot. 5 fois par semaine, être avec les autres, faire comme les autres. On se redouche, ça fait gagner 15 minutes dans la journée. On rejoint les potes et on est à nouveau dedans. On est dans le train. Celui qu'on voulait quitter à tout prix quelques mois avant, et finalement, il a un je ne sais quoi réconfortant, comme l'odeur de tabac froid de ton grand-père. C'est pas agréable, mais on s'y sent bien quand même. Et on écoute les potes parler de leur boulot, de leur couple, et on se sent pleinement dedans à nouveau. Dans l'humanité, encore. On parle des compos, on commande des bières, on insulte des mecs à l'écran qui nous ont rien fait, on gueule, on rit, on pleure, et puis encore une fois, on retourne chez soi, la poitrine gonflée, un sourire sur le visage qui ferait croire à n'importe quel chaland qu'on a gagné au loto, et on remercie encore une fois le football, qui nous réunit, qui nous fait sentir vivants, qui, le temps d'une soirée, nous fait oublier tout le reste, les vagues à l'âme et les problèmes d'indemnité chômage. On remercie ce football qui nous fait sentir intensément humains. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Poteau Carré. Et avant de vous dévoiler à quel camp qu'on va s'intéresser aujourd'hui, je vous présente évidemment les deux larrons qui m'accompagnent. L'un est plus proche du brevet que du chômage. Néanmoins, attention, ça peut venir très vite, avant même sa puberté. Ça va, Zach?
Écoute, ça va super. Et en vrai, figure-toi que j'ai découvert le monde du travail malgré mon très jeune âge et que ta petite intro m'a rendu nostalgique. Ça me manque un peu cette période de chômeur inactif et ces après-midi devant la play. Mais bon. Il faut s'y faire.
Ah, c'est agréable, hein, un petit temps. Et avec lui à sa gauche, pour contrer le chômage, lui, il a créé un média, pas con, mais alors déjà que j'aimais pas bosser en étant payé, je vois pas l'intérêt de le faire gratuitement. Notre pilote-trempe est avec nous, ça va Val?
Écoute, ça va très bien. Je suis un peu étonné que si tu t'ennuies tant que ça, tu ne m'envoies pas plus de messages, parce que moi, pour le coup, je réponds assez rapidement. Mais non, non, ça va très bien. Et je me permets de m'excuser un petit peu pour tous les auditeurs qui s'attendaient peut-être à nous écouter ce vendredi, ce mardi et ce mercredi, mais on a malheureusement été... Alors, moi, j'ai été touché par le virus et les autres touchés par le boulot, puisque ça arrive une fois de temps en temps aussi sur ce podcast, et c'est pour ça qu'on a été absent sur cette dernière semaine, mais on revient en force avec ces nouveaux épisodes. Et d'ailleurs, j'en profite, je me permets de faire mon rédac chef, pour dire que nous sommes à la recherche de nouveaux partenaires pour l'Euro qui arrive en juin prochain. Donc, si vous connaissez des gens qui seraient intéressés pour sponsoriser ce podcast ou pour faire un petit peu de promotion, n'hésitez pas à nous transmettre les coordonnées de ces personnes-là. Nous serions très heureux d'échanger avec eux.
Oui, et si vous connaissez aussi des gens qui cherchent quelqu'un pour travailler dans la communication en CDI, voilà, l'annonce est passée. Bon les gars, pour cet épisode, on va se diriger du côté de la Serie A, où un mauvais élève plutôt surprenant a attiré notre attention. Habitué du ventre mou ces dernières saisons, voire même étonnant outsider les deux d'avant, Sassuolo déçoit dans les grandes largeurs cette année. Alors qu'il nous avait habitué à un jeu plutôt hyper agréable, des recrutements audacieux et souvent payants, le club voisin du bon élève Bologne de cette saison est en danger. On va essayer de comprendre les gars comment ils en sont arrivés là, alors qu'il y a 3-4 ans on s'attendait à aller voir squatter l'Europe de temps en temps. Avant toute chose, comme d'hab, on va revenir sur l'histoire du club, un petit peu de la ville, du Blédon, avec Val. qui va nous parler un petit peu de ce club.
Oui, Sassuolo, cette petite ville de 40 000 habitants située dans la banlieue de Modène, ville d'Émilie-Romagne. Donc l'Émilie-Romagne, cette région du nord de l'Italie, située entre la Toscane et la Lombardie, qui comporte des grandes villes comme notamment Bologne. Donc c'est une région dont on avait déjà un petit peu parlé dans notre épisode justement sur Bologne l'an passé, quand on avait évoqué l'équipe de Thiago Motta. La région d'Émilie-Romagne, qui est une région assez industrielle, qui est connue notamment pour accueillir les sièges sociaux des grandes marques automobiles comme Ferrari, Maserati, Lamborghini, toutes ces marques qu'on pourra se payer une fois qu'on aura justement eu un nouveau sponsor sur notre Euro 2024. Voilà, région aussi connue pour ses tortellini, son parmigiano reggiano, son vinaigre balsamique, des choses qui nous parlent un petit peu plus en termes de pouvoir d'achat. Mais voilà, le club de Sassuolo qui est alors le 30e club, il y a un classement perpétuel de la Serie A qui est actualisé tous les ans en fonction du nombre de points marqués par les clubs qui ont joué déjà une année en Serie A depuis la création du championnat. Et donc Sassuolo est positionné à la 30e place, ce qui fait que c'est vraiment un petit club entre guillemets, un club qui se situerait plutôt dans une deuxième division si on peut le dire comme ça.
Ce qui est quand même pas immonde, parce que vous rappelez que c'est quand même un bled de 40 000 habitants, hein. C'est une petite ville de banlieue.
Petit point, c'est un club qui donc a joué sa première saison de Serie A en 2013 et donc qui bénéficie dans ce classement du fait qu'ils aient toujours connu les victoires à 3 points. Dans ce classement, il y a quand même beaucoup d'équipes qui bénéficiaient des victoires à 2 points aussi, donc c'est pour ça qu'ils bénéficient aussi d'une place un petit peu plus haute que certains clubs qui, je pense, à l'époque, auraient été plus haut dans ce classement s'il y avait une victoire à 3 points. Bref, petit détail, ça permet juste au moins de situer à peu près où est le club dans l'histoire du championnat. Alors c'est un club qui a été créé il y a très longtemps, en 1920, mais qui pendant quasiment un demi-siècle a joué dans les divisions régionales, du coup en 5e division notamment. La première promotion en série D est en 1983, et cette même année justement il y a l'arrivée en tant que sponsor du club de Mapei, qui va jouer un rôle assez important dans l'histoire du club, sur lequel on va revenir un peu plus tard, notamment via son PDG Giorgio Squinzi. Et voilà, au début des années 90, enfin le sponsor va rester pendant quelques années, puis disparaître, enfin quitter le giron du club pour se réinvestir dans le sponsoring d'équipes cyclistes. Et d'ailleurs, ça a été une grosse équipe cycliste, l'équipe Mapei, dans les années 90. Il y a eu plusieurs grands coureurs cyclistes qui ont fait leur carrière là-bas. Je pense notamment à Oscar Freire, qui a été champion du monde dans cette équipe, à Fabian Cancellara, qui a gagné quelques titres là-bas aussi. Donc voilà, ils sont reconvertis là-dedans, ce qui va maintenir le club à peu près au niveau de Série D. Le club va justement obtenir sa première promotion en Série C en 2006. Il faut savoir que notamment Giorgio Squinzi est revenu au club à partir de 2002 avec des ambitions de faire monter le club un petit peu en grade. Donc justement, il y a cette première promotion en Série C. Puis en 2007, ils font venir Massimiliano Allegri en tant qu'entraîneur, qui va faire monter le club en Série B. Alors il va rester qu'une seule année, mais le club va réussir à se maintenir en Série B dans les années suivantes, et c'est seulement en 2012-2013, sous la houlette de Eusebio Di Francesco, que le club va monter en Serie A pour la première fois, en décrochant justement ce titre de champion de Serie B, qui est aujourd'hui le seul et unique titre majeur, je dis majeur entre guillemets parce qu'il y a aussi un titre de coupe de Serie C1, voilà, donc qui est le seul titre majeur du club aujourd'hui.
Ouais, donc on voit bien que pour ceux qui suivent ça de très loin, etc., pour certains, Sassuolo peut être une équipe très installée de la Serie A depuis longtemps, alors que c'est pas du tout le cas, c'est un peu des petits nouveaux là-dedans. Ce qui peut expliquer, entre guillemets, leur état de forme aujourd'hui, entre autres. Et tu fais bien d'arriver à 2013, parce que c'est une année très importante pour Sassuolo. Et Zach, tu vas nous en parler un petit peu dans ta petite chronique.
Et oui, Jules, l'US Sassuolo, ce petit club qui a gravi les échelons un par un, son honnête PDG qui a offert un magnifique stade au club, un écusson défendu par toute la région, voilà la belle histoire de la montée du club en 2013. Alors non, en fait, faut pas du tout me croire, parce que je vous rappelle que le football est un sacré monde de requins, et je vais vous le montrer avec un sacré bel exemple. Donc retour en 2013, lorsque Sassuolo atteint la Serie A pour la première fois de son histoire avec Eusebio Di Francesco. Un scénario magnifique, seulement 5 ans après sa montée en Serie B. Petit problème, l'ascension est presque trop rapide. Sassuolo ne dispose pas de stade aux normes pour la première division. Pire encore, le club n'a même pas vraiment d'ultra et les footeux de la région sont plutôt affiliés aux clubs voisins d'Émilie-Romagne comme Bologne, Parme, Modène ou Carpi. Une situation loin d'être convenable pour Giorgio Squinzi et le président de Mapei et propriétaire du club depuis 2002 va trouver une solution drastique à tous les maux de son club. La très mauvaise santé du club de Reggiana au bord de la faillite va faire son bonheur. Ce club historique est celui qui a vu Carlo Ancelotti débuter sur un banc en 1995 en Serie B, et son enceinte, le Stade Giglio, est inaugurée la même année. Premier stade doté d'un naming en Italie, il est aussi précurseur par la présence de dizaines de loges, l'absence de barrières et la présence de télésurveillance. L'histoire est belle, même beaucoup trop pour durer. Les coûts de construction du stade et la rétrogradation en Serie C en 2000 endettent la Serie Reggiana qui fait faillite en 2005. Et si des entrepreneurs locaux aident le club à s'en sortir, ils se relancent cependant avec des moyens bien plus maigres. Et c'est là qu'intervient notre bon vieux Giorgio Squinzi. En entrepreneur averti, il sent l'affaire du siècle se présenter. Reggiana a besoin de fonds et donc il rachète le stade Giglio pour un montant ridicule de 3 800 000 euros. Cette acquisition rend fou les supporters de la Reggia qui comptaient faire une offre de leur côté. Mais le mal est fait et une pointe d'ironie vient s'ajouter. La Reggiana est désormais locataire, expulsable du stade et doit verser un loyer de 250 000 euros à Sassuolo pour continuer à évoluer dans son ex-enceinte. Les couleurs du club sont totalement effacées au profit de celles de Sassuolo et son musée est transformé en restaurant. Les ultras de la Reggia manifestent en disant que leur club a vendu son âme au diable. Leur équipe vient en effet d'être expulsée de sa propre ville par un club extérieur. Giorgio Squinzi n'a qu'à ajouter 700 000 euros pour faire de son nouveau Mapei Stadium l'un des stades les plus modernes du pays. Alors il est doté de 30 000 places et sera le premier en Italie à être équipé de la Goal Line Technology et à accueillir la finale de Ligue des Champions féminine. Pour remplir le stade, Squinzi n'a pas froid aux yeux. Il lance une campagne dans la ville de Reggio pour convertir les tifosi de la ville en supporters de Sassuolo. Le propriétaire des Neroverdi mise sur un discours où il présente Sassuolo comme un petit club régional ayant gravi les échelons un par un. Alors, pas faux dans l'idée, mais assez culotté de la part du président d'une entreprise estimée à 2 milliards d'euros. Entreprise qui joue d'ailleurs avec les limites de l'UEFA, on le verra plus tard, puisque Mapei correspond à 35% du chiffre d'affaires de Sassuolo, alors que l'UEFA interdit qu'un sponsor ne représente plus de 30% du budget d'un club. Avec cette histoire, Giorgio Squinzi a été l'incarnation parfaite du loup se faisant passer pour l'agneau, et bizarrement, cette histoire s'est encore déroulée dans les prairies italiennes.
Ouais, c'est vrai qu'ils aiment bien flirter avec les trucs border là-bas. En tout cas, ce qui est pas mal, je trouve, c'est qu'entre la contextualisation historique et la chronique de Zach, qui nous raconte un petit peu d'où vient Sassuolo, on comprend finalement que c'est vraiment un petit club. Est-ce qu'on peut essayer de reboucher le petit trou qui nous manque, les gars, entre justement du coup 2013, l'acquisition de ce stade et la montée de Sassuolo en Serie A, et on va dire les années 2020 où on arrive maintenant où finalement ça a bien commencé et là ça est en train de se passer un peu plus mal.
Moi, j'ai un petit quiz pour toi, Jules, pour faire cette transition. Est-ce que tu sais qui est le premier buteur de Sassuolo dans l'histoire de la Serie A ? Enfin, de l'histoire de Sassuolo en Serie A, pardon.
Ah, c'est-à-dire qu'il y a un joueur de Sassuolo en 2013.
Ouais, un mec qui, par la suite, a été reconnu pour avoir envoyé un espèce de missile en orbite, notamment à l'Euro.
Ok, je l'ai là avec
mon indice.
Non, pas Harry Kane. Non, c'est Simone Zaza.
Ah putain, ah oui, c'est vrai qu'il était, c'est vrai que c'était le buteur de Sassuolo dans les années 2010.
Ah, la fameuse course de Simone Zaza sur penalty, je crois que c'est l'Euro 2016 hein, si je dis pas de bêtises. Voilà.
Semble, ouais.
Et c'est marrant, bah, pour enchaîner
2012.
Non, ça me paraît tôt 2012.
Je sais plus.
Ah, non,
je
2012, plus. Je pense pas, puisqu'il était pas, s'il était à Sassuolo en 2013, c'est qu'il devait pas être sélectionné
ouais.
En
2012.
Pour enchaîner ensuite sur justement la suite de l'épopée de Sassuolo en Serie A, bah, l'année de la montée, ce qui est paradoxal, c'est que Eusebio Di Francesco va être viré parce que les résultats ne sont pas dingues, évidemment. Il y a évidemment une période d'adaptation pour le club qui va être un petit peu compliquée. Ils vont perdre leurs 4 premiers matchs en Serie A. Il va être viré et il va être rappelé 5 matchs plus tard. Alors ça, on appelle ça une Leonardo Jardim dans le milieu.
Mais pas avec le même chèque.
Pas avec le même chèque, non, je pense pas. Bah, après, Jardim, mais... Il aime un petit peu l'argent, donc il sait négocier. un tout petit peu, hein, pas plus que ça. Et finalement, l'aventure va être assez belle parce que donc là, on est en 2013, enfin sur la saison 2013-2014 à ce moment-là, et Eusebio Di Francesco va finalement rester jusqu'en 2017, et notamment en obtenant le meilleur résultat de l'histoire du club en Serie A, en finissant sixième et en se qualifiant pour l'Europa League. Alors, il y a eu des barrages pour se qualifier pour l'Europa League. Ils ont passé le barrage et le tour préliminaire, et ils se sont retrouvés donc en phase de poule où là, ils ont gagné. Enfin, ils ont fini dernier de leur poule, mais ils avaient une grosse poule et c'était déjà une performance exceptionnelle pour un club comme ça, qui avait vécu sa première saison en Serie A trois années avant de réussir à se qualifier pour l'Europa League. Et voilà, et c'est à partir de la montée en Serie A que le club va notamment développer une ADN de trading, qui va consister à acheter des joueurs assez jeunes, pas mal de joueurs notamment en situation d'échec dans des grands clubs italiens. Pour les mettre en valeur et ensuite les revendre à des prix qui permettent au club de se développer et de développer aussi des infrastructures.
Pour rebondir là-dessus, Val, c'est qu'en fait Sassuolo entretient des plutôt bonnes relations avec des clubs italiens comme la Juve ou la Roma, et va vraiment se concentrer sur un recrutement de jeunes italiens formés dans les académies, pour ensuite les façonner pendant 2-3 ans et après les laisser partir dans des top clubs pour le prix fort. Et ça, c'est ce qu'avait très bien compris le directeur sportif encore aujourd'hui de Sassuolo, c'est Giovanni Rossi qui est là depuis 2013. Alors lui, ça faisait même un moment qu'il était là parce qu'il était directeur, enfin, il était un peu conseiller en scoutisme pour le club de 2006 à 2010. Et en fait, il va dénicher pas mal de talents. T'as notamment Locatelli, des joueurs comme Scamacca, Politano, Pellegrini qui nous parlent tous et qui ont vraiment été formés dans les académies italiennes. Et il faut savoir que Sassuolo, ils ont eu une méthode très particulière de recrutement dans les années 2010, car ça recrutait quasiment que italiens. Et surtout, je crois que c'est jusqu'en 2013, ça n'avait jamais vendu à un club autre que ça n'avait jamais vendu de joueurs à un club étranger. Donc, il faut se dire que c'était vraiment une stratégie vraiment nationale jusqu'au bout.
Ouais, c'est une stratégie particulière. Mais en fait, finalement, est-ce que du coup, on peut expliquer la saison très compliquée de Sassuolo que sur cet aspect-là, sur cette stratégie sportive? C'est-à-dire, en fait, c'est des choses qui arrivent à tous les clubs de trading. C'est-à-dire qu'en fait, à force de prendre des jeunes joueurs, de les revendre, en fait, des fois, on a des mercatos ratés et ça peut amener des saisons sportives cata, ou on a d'autres éléments pour l'expliquer, Val?
Moi, je trouve qu'il y a eu un aspect. Alors, la complexité des modèles de trading, c'est de réussir à avoir une direction sportive qui fonctionne bien et qui suit le projet de trading et que ça ne parte pas dans tous les sens non plus. Je trouve que le club avait plutôt bien réussi à faire ça, notamment en ayant une politique aussi sur ses entraîneurs, c'est-à-dire qu'ils ont pendant très longtemps été chercher des entraîneurs italiens assez jeunes qui connaissent bien le championnat et qui connaissent bien les joueurs et les façons de jouer en Italie. C'était le cas de Eusebio Di Francesco. Ça a été le cas. Alors, il y a eu un entraîneur qui est resté un an entre Di Francesco et De Zerbi, mais ça a été le cas évidemment de De Zerbi après, qui était évidemment un entraîneur qui connaissait parfaitement le milieu, qui était un jeune entraîneur avec des idées nouvelles. Et je trouve que c'est comme ça qu'ils ont réussi aussi à façonner des joueurs. Tu as cité quelques joueurs, on peut rajouter Politano, on peut rajouter Pellegrini, qui ont été cherchés dans les centres de formation de la Roma, notamment, pas les deux, mais Pellegrini, je crois qu'il était à la Roma quand il était gamin. Donc c'est des joueurs qui sont arrivés avec des entraîneurs qui avaient aussi des philosophies de jeu. Donc évidemment, il y a toujours des risques quand tu fais face à un modèle de trading, mais je trouve que ce modèle de trading là était assez structuré, que ça partait pas dans tous les sens, que tu avais aussi derrière un actionnaire qui est Mapei, qui est solide, hein. On peut en parler après si tu veux de Mapei, parce que c'est quand même une société qui est assez intéressante, mais voilà, c'est un club qui pendant les années a réussi aussi à évoluer et à se structurer, et aujourd'hui c'est un club qui est évalué quasiment à 62 millions d'euros, c'est les chiffres que j'ai vus, 62 millions d'euros. Je crois que quand le PSG est revendu au Qatari, il est évalué aux alentours de 70 millions d'euros. Bon, c'est en 2011, c'est pas, évidemment pas le même contexte, mais ça donne un peu un ordre d'idée. Je suis pas sûr sur le chiffre du PSG, c'est à confirmer, mais voilà. Et un autre élément qui peut être intéressant pour évaluer le niveau du club, c'est qu'aujourd'hui le club est aussi membre de l'ECA. Je sais pas si vous voyez ce que c'est le syndicat des clubs de foot. Il y a deux syndicats des clubs de foot en Europe aujourd'hui. Tu as l'ECA, il y en a peut-être même trois maintenant avec la Super League, mais tu as l'ECA qui représente un petit peu les grands clubs européens autres que autres que les dissidents Super League, et t'as l'UEC qui est là pour représenter les petits clubs, notamment les clubs de bas de championnat ou des championnats mineurs. Et aujourd'hui, Sassuolo est représenté par l'ECA. Alors, il y a beaucoup de clubs qui sont représentés par l'ECA, mais pour un petit club d'une petite ville comme ça, c'est aussi représentatif d'une progression sur les 10 dernières années, je trouve.
Du coup, je propose, Zach, avant qu'on réaborde le sportif de cette année, voir où ça a déconné entre le mercato de cet été et, on va dire, le déroulé de la saison, qu'on s'intéresse du coup un peu plus, même si tu en as dit quelques mots tout à l'heure dans ta chronique, mais qu'on s'intéresse justement un peu à Mapei, parce que,
ouais,
on va dire, entre guillemets, ça va nous éclairer pour la suite, parce que par rapport au projet sportif, entre guillemets, peu importe ce qui se passe, il y aura cet acteur majeur qui sera derrière le club, qui est Mapei, et qui est un acteur quand même assez intéressant, tu le disais, Val.
Bah en fait, ce qui est quand même assez intéressant avec Mapei, c'est que Val, il le disait en présentant l'histoire, c'est que Sassuolo, finalement, a une histoire assez récente. Et Mapei, en arrivant, va construire une histoire avec une vision assez entrepreneuriale, finalement. Donc, par rapport à cette stratégie de trading, tu l'as dit, mais aussi en recrutant italiens, que ce soit par les entraîneurs ou les joueurs. Et finalement, ça va leur faire du bien parce que, tout au long des années 2010, ils vont développer une sorte d'identité, que ce soit financière ou dans le jeu, avec De Zerbi notamment. Et ça va déboucher, par exemple, sur un Euro 2020 où l'Italie finit championne d'Europe avec quand même trois joueurs de Sassuolo. T'as Berardi, t'as Scamacca, t'as Locatelli. Et finalement, ça montre un peu l'aboutissement de tout ce travail de Mapei, qui, autant sur le plan sportif que financier, est vraiment présent. Et franchement, je pense que, enfin, tout le monde le dit, hein, sans Mapei, Sassuolo n'en serait pas là aujourd'hui. Et c'est vraiment un aboutissement et ça montre le bon travail qui a été fait. Alors bon, dans ma chronique, j'ai un peu diabolisé Squinzi, mais qui a quand même fait un travail énorme pour le club. Donc ouais, on a quand même une histoire récente, mais qui est quand même plutôt bien faite.
Justement, parce que du coup, t'as diabolisé Squinzi, on a un peu abordé le sujet dans ta chronique, mais ça a l'air quand même d'être un personnage assez intéressant, Val, le Squinzi.
Ouais, alors j'ai une stat qui est folle. Il a été nommé personnalité de l'année 2022, alors que je précise, il est mort en 2019. Ouais, il est mort en 2019. Dans le domaine du carrelage par le TCNA, le Conseil nord-américain de poste de carrelage. Voilà, vous faites ce que vous voulez de cette information, mais au moins il a ce titre honorifique.
C'est quand même assez classe.
Ouais, c'est, mec, pour ton LinkedIn, c'est quand même un truc un peu de dingo, quoi, en vrai.
Jules, si tu veux tenter, si jamais.
Ouais,
je pense qu'en vrai, au carrelage, ouais.
Non, mais mec, je pense que même si tu mets ça sur ton compte LinkedIn, personne viendra te le vérifier. Tu sais, je pense que tu peux le promouvoir comme ça et dire que t'as une spécialité dans le carrelage. En vrai. Bon, bref, on en rediscutera. Non, en vrai, Squinzi, c'est un mec.
À côté de ce titre-là, on en sait un peu plus ou pas sur Squinzi?
Ouais. Oui, c'est quand même un entrepreneur à succès. Hein. Zach le présentait un petit peu il y a quelques secondes. Mais c'est un mec qui va donc récupérer l'entreprise Mapei qui avait été fondée par son père une quarantaine d'années avant. Alors Mapei, on l'a pas précisé, mais c'est une entreprise qui produit des produits chimiques de construction, notamment spécialiste des adhésifs, des revêtements et des mastiques pour le bâtiment. Donc,
pour le carrelage.
C'est peut-être pour ça qu'il a été élu homme de l'année, personnalité de l'année. Mais voilà, c'est une énorme entreprise qui emploie aujourd'hui plus de 11 000 employés à travers 80 pays dans le monde. Donc voilà, qui travaille dans des chantiers qui sont extrêmement importants. Donc voilà, c'est une énorme entreprise que Squinzi a énormément développée. Notamment, quand il a repris l'entreprise dans les années 70, c'est lui qui a participé à toute la phase d'internationalisation de l'industrie. Et c'est un mec qui est réputé pour, alors je le cite, n'avoir jamais distribué de dividendes, mais a toujours réinvesti dans l'entreprise. Il aimait répéter famille pauvre, entreprise riche. Il n'a jamais licencié d'employés, ni eu recours à des indemnités de licenciement, et n'a jamais clôturé un bilan déficitaire. Alors, il y a forcément une part de communication là-dedans, mais sur les bilans déficitaires, c'est vrai pour le coup. Donc, c'est vraiment un entrepreneur à succès. Et qui d'ailleurs,
Même s'il y a de la com, c'est vrai que Zach l'avait présenté un peu comme un salopard. On va dire que sur le papier, c'est plutôt sympathique.
C'est vraiment l'incarnation.
Ah oui, carrément.
C'est vraiment l'incarnation de l'entrepreneur à succès qui a réussi et qui incarne désormais une ville. Alors même si Mapei a été créé à Milan, c'est une ville qui incarne aujourd'hui la ville de Sassuolo à travers le club, notamment parce qu'elle a construit le club et mis un peu la ville de Sassuolo sur la carte du pays. D'ailleurs, c'est pas surprenant si le siège du club est situé au 1 via Giorgio Squinzi à Sassuolo. Donc il a lui-même sa ville. Donc voilà, et aujourd'hui le club est géré entièrement par, même s'il est décédé en 2019, par la famille de Squeezie et par l'entreprise Mapei. Il y a une AG des actionnaires, il y a un conseil d'administration. Le conseil d'administration a été entièrement nommé par la famille Squeezie. Carl Rossi, qui est président du conseil d'administration depuis 2004, c'était un proche de Squeezie. Giovanni Carnevali, qui est aujourd'hui le président directeur général, donc qui est un petit peu la figure principale du club, est un très proche de enfin était très proche de Giorgio Squeezie, et Veronica Squeezie, la fille de Giorgio, est aujourd'hui vice-présidente du club. Donc voilà, malgré son décès en 2019, la famille Squeezie est toujours hyper investie dans le club et est l'incarnation un petit peu de toute la progression.
Oui, donc c'est assez intéressant parce que je trouve que c'est pas beaucoup su. Enfin, en tout cas, moi je le savais pas avant qu'on fasse cet épisode-là, que en fait Sassuolo c'est une sorte de petit Wolfsburg en Italie, quoi. C'est vraiment un club entreprise. Quelle idée par ça. Je le trouve, du coup, c'est un peu moins romantique. Je le trouve moins sexy que. Oui, c'est un peu ça. Mais c'est quand même intéressant. Du coup, ça reste aussi un club familial. Donc, on a bien compris l'importance du rôle Mapei, qui est pas simplement un sponsor, mais qui finalement est le club derrière tout ça. Est-ce que, du coup, les gars, on peut essayer de revenir après les années vraiment bonnes, on va dire, avec De Zerbi sur cette saison qui est vraiment pas bonne. Alors, après, je te rappelle, on parle de Sassuolo. On va dire que là, le championnat de la relégation en Serie A est tellement serré que potentiellement, dans 3 semaines, ils seront 12e, étant donné qu'ils se tiennent, ils sont 6-7 à se tenir en 2 points. Mais quand même, ils sont actuellement 19e. Ils se battent pour la relégation. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi ce merdier, Zach?
Bah, en fait, ils ont commencé la saison avec Alessio Dionisi, qui, pour le coup, finalement, a fait du très bon taf au début, parce qu'il a pris la succession de De Zerbi et en 2020...
Parce qu'on sait que De Zerbi, quand il prend les clubs, c'est un peu manager à l'ancienne et il contrôle beaucoup de choses. Donc, quand il part, c'est pas évident à gérer.
Ouais, c'est ça. Et finalement, ça a été pas mal fait parce que, bon, même s'il y a eu le Covid entre-temps, Sassuolo, il y a un moment où je pense que c'est là aussi qu'on a commencé à jeter un œil sur eux. C'est que on les appelait un peu les tueurs des grosses équipes. C'est que ils avaient cette réputation d'être capables. Je crois que dans la même saison, ils ont battu l'Inter, la Juve et l'AC Milan. Enfin, quelque chose qui avait jamais.
50 ans, je crois que c'était pas.
Ouais, qui avait pas été fait depuis super longtemps. Donc pour le coup, il avait bien pris la relève. Et cette année, bah ça c'est. Il y a eu un début de saison qui est plutôt bien passé. Il gagne quand même 3 victoires sur les 6 premières journées avant de totalement s'effondrer.
Juste ouais. Avant qu'on y aille sur cette année, pour le rappeler à tout le monde, l'an dernier, Sassuolo finit à la 13e place, je crois, ce qui est plutôt honorable en vrai.
Ce qui est sa place en vrai.
Son standing, ils ont toujours fait entre 13 et 8. Mais c'est vrai que jusque-là, ils n'avaient jamais vraiment eu d'état d'alerte à ce point de la saison. Où là, du coup, ils sont actuellement 19e. Et surtout, bah, c'est 3 victoires en 21 matchs. Et que là, ça commence à faire beaucoup. Et donc, Dionisi, malgré le bon début qu'il a eu, bah, il a été limogé. Et ils ont fait appel à Davide Ballardini, qui est là pour le coup. Donc, on change totalement de stratégie. Le but, c'est plus de pratiquer un beau football, de mettre en place une philosophie. Ballardini, c'est un entraîneur de 60 ans qui est originaire d'Émilie-Romagne. Et c'est un peu le Fred Antonetti ou le Pascal Duprat d'Italie. C'est que c'est un spécialiste de la mission maintien. Il a réussi à sauver des clubs comme Cagliari, Palerme à plusieurs reprises. Le Genoa aussi. Mais malheureusement pour Sassuolo, il reste quand même sur un échec avec la Cremonese qui avait fini 19e. Donc bon, c'est pas la meilleure dynamique.
Comment on arrive. On va revenir un petit peu, parce que je sais que vous n'êtes pas exactement d'accord, on en parlait en off, etc. Comment on arrive à sortir d'une saison, certes, où ils finissent dans le ventre mou, mais c'est ce que tu disais tout à l'heure, hein, où ils avaient la réputation d'être des tueurs de gros, à être dans cette situation sportive-là aujourd'hui? Qu'est-ce qui s'est passé en à peine 8 mois pour que ce club tombe à la renverse comme ça?
Moi, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et Zach, t'as un peu invoqué son nom, le directeur sportif, qui est Giovanni Rossi, qui est là depuis le début, depuis la montée en Serie A. Alors, il a fait une petite pige à Cagliari pendant une année, mais qui n'a pas fonctionné. Mais donc, il est là depuis le début. C'est lui qui a créé toute la politique sportive du club depuis une dizaine d'années, et justement, notamment, qui s'est appuyé sur ces entraîneurs italiens un petit peu jeunes. Alors, il y a eu Pioli et Allegri avant qu'ils montent en Serie A. Depuis, il y a eu Di Francesco, il y a eu De Zerbi. Et donc, il y a eu Alessio Dionisi, qui est pourtant un entraîneur qui respectait un petit peu cette philosophie-là, qui était un mec qui était réputé très humble, alors pas aussi radical, très axé sur la possession, etc. C'est lui qui avait le plus haut le taux de possession en 2022, qui avait le nombre de passes réussies le plus important. Donc, c'était un mec qui était un petit peu différente de Zerbi, et peut-être que justement c'est là-dessus que ça s'est passé, qu'il n'a pas réussi à s'adapter. On sait que c'est difficile aussi hein, dans les clubs comme ça qui font du trading, suffit d'une année à l'autre, même si je le disais tout à l'heure, c'est structuré et c'est bien pensé, etc. Il suffit qu'il y ait 2-3 mauvaises pioches, que tu aies 2-3 blessures, que le groupe réponde un petit peu moins bien aussi à une philosophie de jeu, surtout quand il y a une rupture par rapport à un entraîneur précédent. Et forcément, tu peux enchaîner des séries de résultats qui ne sont pas bonnes. Et je suis complètement d'accord avec Zach sur le changement de mentalité. Ballardini, c'est un mec qui est plus âgé, c'est un mec qui a 60 balais, c'est plus dans l'ADN des entraîneurs un peu plus jeunes. J'ai pu échanger un petit peu avec Johan Crochet des drôles de dames de l'after qui me confirmait exactement ce que Zach a dit, que en fait là c'est vraiment l'opération pompier de service quoi. Le mec il vient juste pour essayer de sauver un club, et c'est d'ailleurs quasiment sûr qu'il ne restera pas la saison prochaine, même si le club arrive à se maintenir.
Mais ce qui n'est pas une si mauvaise idée que ça, parce qu'on sait, on en parlait aussi en off tout à l'heure, on a déjà vu le cas en Ligue 1, etc., que les clubs qui ne sont pas taillés pour jouer le maintien, quand le maintien arrive, ils peuvent se défendre moins bien que ceux qui sont préparés à ça depuis le début. Donc, ce n'est pas si con que ça de faire venir un spécialiste de la mission, entre guillemets. Ouais. Zach,
après, j'aimerais avoir un avis. Après, tu peux prendre le contre-pied aussi en disant que tu peux réussir à instaurer des plans de jeu sportifs en 5-6 matchs. Hein. On l'a déjà vu avec des entraîneurs. Pierre Sage, cette année, en est l'expression la plus parfaite. Après ce n'est pas le même niveau d'infrastructure, ce n'est pas le même niveau de club à Lyon non plus, mais ça existe aussi des entraîneurs qui arrivent à se créer une...
Oui, je suis d'accord. Mais bon, là, on va dire que l'urgence est un peu plus proche que début décembre, ou alors il fallait réagir peut-être avant.
Bah, là, c'est tout beaucoup.
Toi, Zach, c'est quoi ton avis sur la question ? Comment ça se fait que par rapport à l'an dernier, on va dire que ça s'est autant pété la gueule ?
Bah en fait, je pense que comme tous les clubs de trading, comme Val disait, tu peux avoir une année où il y a un coup de moins bien. Mais moi, ce qui m'a marqué, c'est que tu as vraiment une fracture avec les autres années où tu avais quand même... Ça restait un club de trading, mais avec une sorte d'équilibre. C'est que tu perdais des gros joueurs, mais t'arrivais à avoir des bonnes idées derrière, à renouveler, et finalement, tu relançais pas tout. Et là, cette saison, t'as quand même eu énormément de départs importants. T'as quand même perdu Fratesi, Maxime Lopez, voilà. T'as Raspadori qui est parti, t'as Locatelli.
J'allais y venir après que tu aies ton avis. Justement, j'aimerais bien qu'on discute du mercato, parce que ça a joué aussi.
Ouais. Et en fait, tu perds énormément de gros joueurs. C'était tous les piliers de ton équipe qui faisaient que ça tournait bien. Alors, ils ont misé sur des... Ils ont pas mal recruté. Hein. On en parlait tout à l'heure avec Val. Ça a quand même recruté pour 70 millions cet été. Donc, ça a recruté à la fois des jeunes. T'as des jeunes joueurs comme Lipani, un petit milieu italien de 18 ans, ou Volpato qui était à la Roma. Mais malheureusement, ils arrivent dans un contexte du coup qui est compliqué et en fait où ils ont quasiment pas de temps de jeu cette saison. Pareil, tu remplaces des gros noms par, alors Pinamonti qui est quand même un joueur avec un peu d'expérience, mais qui avait très peu de temps de jeu du côté de l'Inter. Et par exemple, je trouve ça compliqué de se dire que ça va être ce mec-là qui va porter ton équipe pour
et
avoir
encore,
des résultats.
Et encore, il s'en sort pas trop mal.
Il s'en sort pas mal. Ouais, heureusement qu'il est là parce qu'il a 9 buts en 28 matchs. Et quand tu regardes les stats des autres joueurs, des attaquants surtout, tu te dis mais qui marque dans cette équipe quoi ? T'as l'Orienté qui a un but cette saison.
Il est très bon cette saison par contre. Hein. Il est pas très.
Ouais,
efficace.
Il a 6 passes quand même. Il est pas efficace, mais ça va.
Ouais, mais j'ai eu pas mal de retours comme quoi c'était vraiment un bon joueur. C'était un des détonateurs de l'équipe.
Mais est-ce que du coup c'est pas tout simplement ça le problème ? C'est qu'en fait cet été ils ont essayé de remplacer des cadres par des gamins et que la mayonnaise a pas pris.
Bah je pense que t'as de ça. Alors après ça veut pas dire que ça prendra derrière qui est maintien ou pas. Ces joueurs-là peuvent s'avérer être des bonnes pioches dans 2-3 ans. Et après t'as aussi un contexte, c'est que ils ont quand même leur leader qui est Berardi et qui est blessé et out jusqu'à la fin de saison. Donc là encore ça aide pas.
Bon après c'est blessé.
Mais oui.
C'est pas ça qui explique tout le début de saison.
Oui, c'est vrai, mais je veux dire que ça va pas aider pour la suite, quoi.
Mmh. Oui, bien sûr.
En fait, on a l'impression que si t'enchaînes les conneries comme tous les clubs qui sont destinés à être relégués, t'as l'impression que ça va jamais dans leur sens.
Ouais, c'est un peu ça, là. Hein. C'est un peu ça qui arrive.
Moi, et malheureusement, pour revenir vite fait sur le jeu aussi, malheureusement, c'est que du coup, le changement de mentalité, il s'est fait et que t'es passé d'une équipe qui aimait avoir la balle, qui avait finalement développé une sorte d'identité, comme je disais tout à l'heure. Et qui là se retrouve quasiment à avoir peur du ballon, qui n'a même pas 40% de possession par match et qui est méconnaissable. Et donc, le fait que les joueurs ne soient pas habitués aussi à ce contexte-là, je ne sais pas si ça fait qu'ils arriveront à se maintenir ou pas, ou s'ils ne vont pas assumer derrière.
En fait, à vous écouter, ce n'est quand même pas super bon signe. Est-ce que vous voulez qu'on rajoute quelque chose, on va dire, sur l'analyse du patient ? Où on passe directement un peu à vos projections à tous les deux, sachant qu'on aura également parce que pour une fois, on va l'interviewer après. On va l'interviewer après notre enregistrement, mais un intervenant de la page Team Serie A française qui nous donnera son éclairage aussi sur la situation de Sassuolo. Est-ce que les gars, vous avez des trucs à rajouter sur l'état de notre patient malade ou on passe à vous vos projections sur le club?
Moi, je pense que c'était une saison un petit peu charnière pour le club là, parce qu'il y avait eu cette première saison d'Alessio Dionysi qui était pas si mal, et que, alors Zach l'a précisé, il y a eu 70 millions d'investis parce qu'il y a eu notamment des paiements qui devaient arriver de transferts qui s'étaient passés avant. C'est le cas de Locatelli, puisqu'ils ont touché 35 millions de Locatelli cet été alors qu'il était parti en 2021. C'est le cas aussi de Ahmed Traoré, je crois. Et je me demande si Raspadori, ils n'ont pas touché une partie du transfert aussi cet été. Voilà, c'est pour ça qu'ils ont eu beaucoup de retours d'argent, beaucoup d'encaissements d'argent. Et c'est comme ça qu'ils ont décidé d'investir. Moi, je trouve que, même si c'est une saison un peu charnière, je trouve qu'il y a une certaine continuité dans le projet sportif. Il y a des investissements qui sont faits sur des jeunes joueurs. Ce que tu disais, Zach, il y a Lipani, il y a Volpato, qui sont des joueurs qui ont coûté quasiment.
T'as Josh Doig aussi, l'écossais, voilà, à gauche.
Qui sont des joueurs qui ont coûté quasiment 20-25 millions. Mais je trouve qu'il y a une continuité et en fait j'ai l'impression que même s'il y a accident en fin de saison, tu perds pas tout ce que tu as construit, c'est-à-dire ouais. Que comme le projet est structuré, alors évidemment ça fera mal au club hein, parce que c'est évidemment pas les mêmes revenus en série B, mais j'ai quand même l'impression que c'est toujours dans la continuité de ce qui a été fait avant. Et d'ailleurs, je trouve que alors là, il y a eu un changement de mentalité avec l'arrivée de Ballardini, mais je trouve que le travail de Giovanni Rossi est toujours dans une certaine continuité depuis une dizaine d'années. Et que, bah, là, il faut changer quelque chose. Il faut faire appel à un pompier de service pour essayer de rebooster l'équipe. Parce que l'équipe n'a pas de certitude aujourd'hui. Alors, il y a quelques certitudes. Il y a le gardien, il y a Consigli, il y a le défenseur Ferrari, il y a un joueur qui avait été acheté l'année dernière qui s'appelle Torstvedt, qui est pas un mauvais joueur, mais qui est encore en phase de progression.
T'as aussi Toyland qui est blessé.
Toyland qui est blessé, Lorienté, Pinamonti sont des bons joueurs, mais voilà, c'est pas des joueurs qui sont encore complètement à maturité. Donc ce sera compliqué de les garder s'il y a descente. Mais en tout cas, je trouve qu'il y a toujours cette continuité-là. Et d'ailleurs, je pense qu'il y a aussi un problème. Alors, j'ai pas envie de dire d'expérience parce que c'est quand même un effectif qui est assez expérimenté. Mais il y a un problème d'efficacité, en tout cas défensivement. Offensivement, ils sont plutôt dans les standards de ce qu'ils devraient faire. Ils sont à quasiment 33 buts marqués pour 35 XG sur la saison. Mais défensivement, il y a un différentiel de 6 buts quasiment. Et je pense que si tu enlèves ces 6 buts, enfin, potentiellement, ils ont 6 points de plus et ils sont en dehors de la zone rouge. Donc, c'est difficile de réussir à juger à l'instant T. Je pense qu'il faut réussir à prendre du recul et voir comment ça se passera en fin de saison.
En fait, Val, ce que tu dis, c'est que par rapport à d'autres clubs qu'on a analysés, où finalement, enfin, j'ai pas envie de. Tu vois, on a parlé de Séville, par exemple, etc., où finalement, on disait, bah, en fait, les mecs font de la merde depuis 8 ans. Donc, en fait, ils récoltent leurs fruits. En fait, là, ça bosse pas si mal que ça. Le projet est plutôt structuré. Juste cette année, de manière conjoncturelle, on sait que ça reste du sport. Donc, des fois, la pièce tombe pas du bon côté, ça déconne un peu. Mais, à la limite, on n'est pas plus inquiet que ça pour ce club. Dans le sens où, de toute façon, s'ils descendent en série B, vu la manne financière de Mapei derrière, a priori,
je
vais pas y rester très longtemps.
Juste un truc avant peut-être de terminer, on peut peut-être donner la parole quand même à Michele de Team Serie A France, avec qui on a pu échanger et qui nous apporte un petit peu son regard sur l'équipe de Sassuolo. Salut Michele, merci beaucoup d'être avec nous. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu ton avis d'expert sur la situation compliquée aujourd'hui à Sassuolo?
Écoute, cette année c'est très compliqué. Surtout à cause de ces ventes chaque saison de leurs meilleurs joueurs, tout simplement. Et ils n'ont pas réussi à remplacer ou du moins aller chercher ces nouveaux jeunes qui auraient pris la relève. Je pense que vous le savez, il y a eu des joueurs comme Scamacca. Donc, d'ailleurs, ça a été la plus grosse plus-value pour ce club de leur histoire. C'est Scamacca avec 36 millions l'année dernière ou il y a 2 ans. À West Ham, Locatelli du côté de la Juventus, plus récemment les joueurs qu'on peut voir à la télé du côté du Naples, Raspadori, il y a aussi Politano. Donc c'était un grand voilà, de magnifiques joueurs qui ont été vendus par El Sassuolo, mais au fur et à mesure du temps qui n'ont pas réussi à remplacer. Et après aussi défensivement, c'est très très compliqué cette saison, quoi.
Ouais, moi j'ai l'impression qu'il y avait quand même, c'était un petit peu une année de transition aussi pour le club qui a quand même essayé peut-être d'aller chercher des joueurs un petit peu plus jeunes, un petit peu moins expérimentés. Et c'est peut-être aussi pour ça que ces joueurs ne répondent pas encore aussi présents aujourd'hui.
Oui, après, il ne faut pas non plus sous-estimer les saisons compliquées de Berardi, qui est un peu leur star, qui est au club depuis maintenant pas mal d'années. L'année dernière, il a loupé pas mal de matchs. Il faut savoir que Berardi, c'est quand même un joueur qui était sur plusieurs saisons ou en double-double, plus de 10 buts, plus de 10 passes décisives. Donc, élément important pour cette équipe. L'année dernière, il a loupé quasiment une moitié de saison à cause de beaucoup de problèmes musculaires. Là, cette saison, pareil, il s'était fait mal. Début d'année, et là, il y a eu, je crois, il y a 2 semaines, rupture du tendon d'Achille. Voilà. Donc, saison terminée pour Domenico Berardi, qui va aussi louper l'Euro. Voilà, c'était quand même un joueur sur lequel Spalletti allait compter. Comme je t'ai dit, c'est le recrutement derrière a mal été ciblé. Et on va dire que voilà. C'est quand il y a 10 ans, tu sais que tu avais quand même une défense avec Paolo Cannavaro à Cherbi. C'est plus compliqué cette année. Ils sont allés chercher un entraîneur qui est un peu le pompier de service pour les clubs en Serie A qui sont en crise. Comme il a pu le faire avec d'autres clubs précédemment. Donc je pense que là, cette saison, c'est au moins se sauver, ne pas descendre en Serie B. Il faut quand même savoir que Sassuolo, c'est un club assez récent de Serie A. Donc voilà, je pense que là, ils vont essayer de tout simplement s'éviter cette relégation en Serie B. Et cet été, on verra ce que Carnaval va essayer d'aller chercher. Mais ce qui est sûr, c'est que voilà, je pense qu'à force de vendre et vendre leur plus grand talent, parce qu'ils ont eu des joueurs à talent du côté de Sassuolo, ben là c'était peut-être la saison de trop, mais faut pas trop en vouloir à Dionysi. C'est-à-dire que chaque année on lui a enlevé ses meilleurs joueurs d'année en année, et on n'a pas remplacé peut-être avec des joueurs du même niveau. Donc c'est compliqué pour un entraîneur chaque saison retrouver, avoir de nouveaux joueurs, voilà.
Qu'est-ce qu'on peut rajouter sur cette équipe, les gars, avant de conclure? Vous voulez dire un truc?
Ben moi, j'aimerais vraiment que Veronica Squinzi soit élue personnalité de l'année de la pose de carrelage en 2024. Ce serait un super truc. Après,
ça pourrait prolonger. Bah, en fait, quand on perd un genre de titre, c'est pas évident à porter. Quoi. Sur les épaules, c'est un peu. C'est l'héritage est lourd.
Non, mais sur la projection, je pense qu'on l'a déjà un peu évoqué. Hein. Je pense que c'est un club, tu l'as dit, il y a un partenaire financier qui est solide, enfin, ce qui n'est même pas un partenaire financier puisque c'est le propriétaire du club, qui est une grosse entreprise italienne qui pourra éventuellement remettre de l'argent au pot s'il y a des problèmes. Il y a depuis 2019 un centre d'entraînement ultra moderne qui est situé près de Modène. Il y a un stade. Il y a tout pour réussir. Il y a un directeur sportif qui potentiellement fait partie des meilleurs directeurs sportifs depuis une dizaine d'années en Serie A. C'est pas transcendant, mais c'est quand même un peu une valeur sûre. Je pense qu'il y a de quoi, il y a de quoi faire quelque chose. T'es pas à l'abri d'un accident, mais t'es pas à l'abri aussi d'avoir un club qui est déjà structuré et qui peut rebondir en cas d'accident grave.
Ouais. Zach, rien de plus à rajouter de ton côté?
Non, bah c'est comme il dit, c'est une maladie à court terme, quoi. C'est que ça va très vite se remettre. Et je pense qu'on, c'est quand même un club. Je sais pas vous si vous avez un peu suivi ces dernières années, mais moi j'ai quand même bien envie qu'il reste en Serie A parce que, ouais, quand je voyais ça sur l'eau, tu regardes les scores et tout, ça battait souvent les gros clubs, t'as plein de buts et ça donnait un peu d'attrait à la Serie A en plus.
Oui, et puis il y a des bonnes idées et en coulisses et sur le terrain depuis quelques années. C'est vrai que par rapport à d'autres équipes du ventre mou qui nous emmerdent de plus en Serie A. On aurait tout intérêt à garder Sassuolo. Après, voilà. Donc, comme on le dit, c'est une maladie à court terme, peut-être même à très court terme, parce qu'il reste 10 journées. Et je rappelle, ils sont à 3 points de la 14e place, 4 points de la 13e. Donc, a priori, une série de 3 victoires va les remettre en dehors de ça. C'est ce qu'il appelle le bonheur.
Il reste une victoire, là, en plus.
De l'Olympique Lyonnais de Val. Ouais, ils ont gagné contre Frosinone, donc la mission, enfin, qui est leur concurrent direct, qui est juste au-dessus. Donc, la mission maintien.
Ils ont
est bien
un calendrier
engagé.
Avec pas mal de matchs pour le maintien encore. C'est ça qui peut être intéressant, ouais, pour eux.
Il y a Frosinone qui est entraîné par Eusebio Di Francesco, le mec qui a fait monter l'équipe en Serie A.
Et la boucle est bouclée. Bon, bah merci les gars. Comme vous l'avez vu, il y avait un peu moins de choses à dire sur Sassuolo, sur les coulisses de ce club-là, parce que, enfin voilà, en fonction des histoires des clubs, en fonction des sujets qu'on choisit, on a plus ou moins de choses à dire. En tout cas, c'était intéressant d'essayer de voir que il y a des clubs malades à cause de leurs décisions et de leur mauvais travail, et que parfois aussi le sport est beaucoup plus aléatoire que ça, et qu'on a beau bien travailler, bah parfois la pièce tombe du mauvais côté. Merci à tous de nous avoir suivis dans ce nouvel épisode de Poteau Carré. Merci Val, merci Zach, et on se revoit dans 15 jours pour analyser un autre cancre dans cet épisode de Poteau Carré.